Bonjour et bienvenue dans les nouvelles du futur. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et j'ai pour objectif d'explorer et décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo depuis 2005. Alors ces derniers jours, les grandes conversations sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est ce qui s'est passé avec GameSpot et ses actions. Alors pour revenir un petit peu, il faut comprendre qu'il y a deux acteurs en place. Il y a un premier, d'un côté, il y a un forum Reddit, hein, vous savez, le réseau social très important aux États-Unis, dans lequel il y a un groupe qui s'appelle les Wall Street Bets. Donc c'est un groupe d'utilisateurs qui est très actif et très attentif à ce qui se passe au niveau de la bourse. Et de l'autre côté, il y a une pratique qui s'appelle le short, qui consiste à parier sur des actions qui vont baisser. En effet, de manière naturelle, nous tous, les gens normaux, on se dit que parier sur des actions, c'est parier sur des actions qui vont monter. Mais en effet, il y a des boîtes et notamment des fonds d'investissement qui parient sur la baisse. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu paries sur la baisse, il n'y a pas de limite basse. Parce qu'en fait, quand une action, tu la payes 100 et qu'elle va à 0, tu ne perds pas d'argent. Par contre, si tu paries 100 et que tu te dis qu'elle va arriver à 90 et qu'elle passe à 120, tu perds beaucoup d'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec GameSpot. GameSpot, c'est un réseau de magasins aux États-Unis qui vendait notamment des jeux vidéo. Et donc du coup, il y avait les fonds d'investissement qui pariaient sur la chute, le crash de cette action. Et du coup, les internautes du réseau Reddit, donc Wall Street Bets, ont décidé de se réunir, de se liguer et d'acheter des actions GameSpot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les actions ont monté en flèche. Et la conséquence de tout ça, c'est que les institutions qui avaient parié à la baisse ont perdu des milliards. Et quand je parle de milliards, on parle d'environ 6 milliards de dollars. Ce qui s'est passé en plus, c'est que les internautes ont utilisé un service en ligne qui s'appelle Robinhood, donc Robin des Bois pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et Robinhood, la particularité, c'est que ça permet de faire de parier en bourse, mais sans dépenser d'argent, enfin en tout cas sans avoir de frais à payer. Et Robinhood, devant l'excès de fonctionnement et de mouvement autour de cette action, a décidé de vendre toutes les actions relatives à GameSpot sans demander son avis à ses clients. Et du coup, ça va créer donc un procès collectif, hein, comme ça peut arriver aux États-Unis. Et dans l'urgence, Robinhood a levé 1,5 milliard de dollars pour essayer de faire face au procès. Alors, qu'est-ce que tout ça nous apprend? C'est que d'abord, les internautes et aujourd'hui des communautés d'intérêt gérées sur des groupes, type des groupes Facebook, mais là c'est un groupe Reddit, peuvent déstabiliser la bourse, que l'administration américaine ou les régulateurs ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Et de l'autre côté, c'est l'activité des plateformes comme Robinhood qui décide de faire le régulateur contre toute attente, enfin de prendre des responsabilités, qui se trouve être contre-productif par rapport à l'objectif initial et qui va se retrouver en fait en pleine cible des régulateurs et certainement des consommateurs, ce qui pourrait lui coûter la vie si la boîte n'était pas déjà super sponsorisée par beaucoup de fonds d'investissement qui veulent pas perdre complètement leur bille dans cette histoire. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'était hyper intéressant et ça se passe encore la semaine prochaine et les mois à venir. On va bientôt voir ce qui va se passer sur ce sujet-là. Puisqu'il est question aussi de grands changements dans notre écosystème et dans la manière dont on voit les choses, sachez qu'aujourd'hui, il y a une vraie guéguerre qui se passe entre la Chine et l'Inde au niveau donc, diplomatique, au niveau global. Et ça se traduit par en fait une pression de l'Inde sur les services en ligne. L'Inde avait déjà interdit TikTok et vient de rajouter 58 autres applications Made in China de son territoire. Et donc, on assiste vraiment à un bannissement de tous les services chinois sur le marché indien. Et vous savez très bien que le marché indien, c'est un gros, gros marché. Et donc voilà, donc on a cette guéguerre. On a par exemple Player Unknown Battleground, un jeu très très populaire, a été aussi exclu de l'Inde. Et on a 118 aujourd'hui applications mobiles qui sont interdites de vie sur le territoire indien. Un des bénéfices, parce que bien sûr, hein, vous le savez, s'il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais il se trouve que le bannissement de TikTok de l'Inde par le gouvernement indien bénéficie à fond à Google et donc à son serveur YouTube qui a lancé sa plateforme de vidéos un peu similaire à TikTok qui enregistre 3,5 milliards de vues par jour. Et oui, on est en Inde. Puisque je suis en train de parler de gros chiffres, il faut aussi saluer un chiffre qu'on a eu ces derniers temps. On vient d'apprendre que Netflix avait atteint les 200 millions d'abonnés. Voilà, 200 millions d'abonnés. Je vous laisse faire le calcul, hein, c'est environ 15 dollars, 10, 13 euros d'abonnement par mois par abonné. Donc 200 millions d'abonnés. Bien sûr, la crise du Covid a aidé. Mais enfin, ça reste un chiffre impressionnant et ce qui explique aussi pourquoi Netflix peut investir 4 à 5 milliards de dollars par an pour créer du contenu. Voilà, Je vous laisse réfléchir sur ça. On a aussi appris que Robert Downey Jr., Iron Man pour les intimes, a investi et créé un nouveau fonds d'investissement qui va avoir pour objectif de cocher un peu toutes les cases du bingo des investisseurs et de la tendance, puisque le but de cet fonds d'investissement, c'est de réunir tout ce qui est développement durable et technologie. Voilà, c'est intéressant parce que, en effet, on se rend compte que les acteurs et ont encore cette aura et cette capacité à attirer l'attention sur des sujets, même quand ils ne sont pas très originaux. Cette semaine, un des gros sujets, c'est Clubhouse. Alors Clubhouse, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau réseau social 100% audio. Imaginez un petit peu une application dans laquelle vous allez pouvoir créer un espace où vous allez pouvoir inviter des amis ou des contacts et vous allez pouvoir discuter. C'est un peu une visioconférence en mode social, mais c'est aussi recréer l'ambiance dans un bar. Vous rentrez dans une pièce, des gens discutent et vous venez un petit peu participer et écouter. Et si vous le souhaitez, les personnes qui animent ce débat peuvent vous faire monter sur scène et poser aussi votre question. Pour aller plus loin, c'est un peu, il faut s'imaginer la radio libre sur laquelle vous pourriez avoir aussi votre voix au chapitre et vous pourriez venir discuter. Alors cette application qui existe depuis maintenant le mois de mars 2020, donc qui n'est pas récente, hein, qui a été créée au départ dans la Silicon Valley pour recréer un petit peu ces instants où les gens viennent discuter, parce que vous savez peut-être pas, mais dans la Silicon Valley, beaucoup de choses se font dans des meet-up, dans des petites réunions informelles où on échange les bons tuyaux. Et donc l'idée des créateurs de ce service-là, de Clubhouse, c'était de créer un peu ce phénomène-là. Et il a été pris en fait par tout le phénomène de Live Black Matters, où beaucoup de la communauté noire s'est regroupée et a utilisé Clubhouse pour être un moyen d'échanger, de discuter, de construire pendant la crise. Et depuis maintenant quelques jours, en fait, le buzz a pris la France, puisque beaucoup de Français sont en train d'arriver sur le réseau. La première raison, c'est qu'ils ont levé des fonds à un montant qu'on ne connaît pas, mais qui élèverait la startup au rang de licorne. Donc vous savez, quand une startup est valorisée plus de 1 milliard de dollars. Donc voilà, donc là, pour l'instant, la communauté française, notamment la communauté technologique, est en train de se jeter sur le réseau social pour savoir quels seront les bons usages et est-ce que vraiment il y a quelque chose à en tirer, un business ou en tout cas de l'échange de la culture, bref. Voilà. Donc moi je vous avoue, c'est très intéressant parce que ça permet un peu comme ce podcast de créer du contenu audio, mais aussi de créer de la conversation, donc c'est quand même très intéressant. Il faudra voir maintenant si ça dure sur la longueur et si vraiment les gens continuent à y trouver de l'intérêt. On apprend aussi que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, la plateforme Quest, vous savez, c'est le casque de réalité virtuelle de Facebook, qui est un casque qui a l'avantage de pouvoir fonctionner et avec un ordinateur, mais aussi de manière autonome, rencontre un vrai, vrai gros succès, en fait, et il y a près de 60 jeux, titres, disponibles sur le casque, qui ont déjà généré plusieurs millions de revenus. Et donc voilà, donc même si vous n'avez personne autour de vous qui l'utilise ou joue, bah en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la réalité virtuelle à ce niveau-là. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Enfin, je voulais vous parler de Gabe Newell. Gabe Newell, c'est un des fondateurs de Valve. Valve, aujourd'hui, c'est la principale plateforme d'achat de jeux vidéo sur PC. Mais c'est aussi un éditeur de jeux qui a connu quelques grands succès, comme notamment celui de Counter-Strike, de Half-Life, Team Fortress. Enfin, peut-être des jeux qui vous disent quelque chose quand j'en parle vite fait comme ça. Du coup, Valve, aujourd'hui, donc très très gros vendeur de jeux vidéo, le plus gros vendeur de jeux vidéo sur PC, explore depuis des années les nouvelles interfaces, les nouvelles manières de faire du jeu vidéo. D'ailleurs, en 2020, c'est eux qui ont sorti Half-Life Alyx, qui est peut-être le meilleur jeu en réalité virtuelle qui ait existé. Et donc, Gabe Newell, donc un des fondateurs, a été interviewé il n'y a pas beaucoup de temps par la télé néo-zélandaise. Et du coup, là, on lui a posé la question de qu'est-ce que c'était le jeu dans le futur. Et qu'est-ce qu'il a annoncé ? Il a annoncé que le futur du jeu vidéo, en fait, c'était la capacité pour le jeu de lire les ondes cérébrales et l'état d'esprit dans lequel est le joueur. En fait, imaginez qu'on vous met des capteurs supplémentaires dans votre casque de réalité virtuelle et qui va être capable de déterminer dans quel état d'esprit vous êtes et donc amener des informations relatives à ça. Si vous êtes stressé, peut-être calmer la violence ou l'intensité des ennemis. Si vous êtes calme, peut-être vous amener le petit truc qui va vous faire sursauter. Et en tout cas, il expliquait dans son interview que ne pas étudier aujourd'hui les interfaces cerveau-machine, c'est quand même passer à côté dans quelque chose qui va changer, bouleverser la société. Une fois qu'on a dit ça, il a été encore plus loin. Il disait, voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est capable de lire les ondes cérébrales, donc de savoir dans quel état est votre cerveau. Mais le futur, celui de demain, c'est vraiment de pouvoir écrire. Donc en effet, de pouvoir sur commande modifier l'état dans lequel se trouve votre cerveau. Et il explique que, par exemple, dormir ne sera plus en fait un besoin naturel, mais une application, et qu'on pourra forcer son cerveau à se mettre dans cet état de s'endormir, de se concentrer, d'être plus dynamique et de pouvoir modifier la manière dont son cerveau réagit grâce à un dispositif externe. Alors, est-ce que ce sera un casque, des lunettes, une bague ou un truc dans sa poche ? Ça, je peux pas vous le dire, mais c'est quand même quelque chose à surveiller. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait peur, j'espère que je vous ai un peu enthousiasmé pour le futur, et on se dit à très bientôt. Au revoir.